Bonsoir à tous, bienvenue dans ce grain moudre de Noël que je vous souhaite heureux. Ce soir, la politique peut-elle se passer d'histoire ? Décidément, Donald Trump n'est pas le meilleur conteur au monde. Il en a donné la preuve hier soir encore en répondant au téléphone à quelques enfants américains selon la tradition de la Maison Blanche. Au petit Coleman, il a demandé son âge, 7 ans. S'il avait été sage à l'école, oui. Et puis avant de raccrocher, le président américain a eu un moment d'absence. Mais dis donc, tu crois encore au Père Noël, toi ? À 7 ans, ça devient un peu marginal, non ? Bon allez, bisous, profite bien. Donald Trump n'aime pas qu'on raconte d'histoire. N'est-il pas le seul à pouvoir s'arroger le droit de dire n'importe quoi ? Un mensonge efface l'autre, un tweet gomme le suivant, écrivait Christian Salmon à son sujet dans Mediapart. Fini le storytelling, bienvenue dans l'ère du clash. Et si Donald Trump avait inventé la narration politique de demain ? Après tout, toutes les formes de récits sont en train de se réinventer, comme on dit, les médias qui s'adaptent à l'ère des réseaux sociaux et de l'image, les jeux vidéo qui inventent de nouvelles formes de narration, c'était le sujet de la grande table hier, le monde du cinéma qui s'est mis à la série. Alors qu'en est-il de la narration en politique ? Peut-elle se passer d'histoire ? Trois invités pour en discuter jusqu'à 19h. Bonsoir Mariette Darry-Grand.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en ce 25 décembre. Vous êtes sémiologue, analyste du discours politico-médiatique et vous dirigez le cabinet des faits et signes. Bonsoir Virginie Leguet.
Bonsoir.
Merci également d'être là, chef adjointe du service politique à Paris Match. Et nous sommes en présence également de Stéphane Rosès, que je salue. Bonsoir.
Bonsoir Julie Gacon.
Politologue, présidente de CAP, Conseil, Analyse et Perspective. Alors Stéphane Rosès, je me tourne vers vous. Ce soir du 25 décembre, on sort d'un repas de famille. La nuit est tombée, ça y est, Stéphane Rosès, vous êtes obligé de vous y coller. Votre petite nièce vous réclame une histoire. Alors, quelle histoire de l'année 2018 avez-vous envie de lui raconter ? Un événement politique de l'année 2018 sous la forme, s'il vous plaît, de conte de Noël.
Oui, ça pourrait être d'ailleurs une histoire, comme souvent, qui commence bien. La rencontre entre un vieux peuple déprimé et un jeune souverain inconnu il y a 4 ans, et c'était évidemment lors de la présidentielle de 2017, il y a un an et demi. Tout commençait bien au fond. Ce jeune inconnu, souverain, je dirais dans une posture très détendue, optimiste, qui n'était rien, rafle tout, parce qu'au fond il dit au vieux pays que c'est pas lui le responsable de son malheur et qu'il ne faut ni se soumettre à la mondialisation, ce que proposait Fillon avec une contrepartie de conservatisme moral, ni s'y opposer, Le Pen ou Mélenchon, mais qu'il allait mettre le pays en marche à partir de ce qu'il était. Alors évidemment, on voyait bien qu'il y avait des premiers de cordée, que son programme semblait faire la part belle, peut-être à ceux qui avaient le plus de moyens, mais c'était la promesse. Et puis, avant l'été, une fois qu'il fait les réformes, il se tourne vers la puissance en Europe qui s'appelle l'Allemagne et demande à la chancelière Merkel, maintenant il faut peut-être se mettre en mouvement, j'ai fait le travail. Et elle dit non. Et là, tout s'ébranle. Et le jeune souverain oublie un précepte qui, à mon avis, est fondamental dans le thème de ce dont nous avons discuté, c'est ce que disait Hobbes. Le souverain interprète le spectacle du peuple, c'est-à-dire que l'histoire vient du peuple et que tout dysfonctionne quand le souverain s'éloigne de ça et a interrogé devant les Français, où emmenez-vous les Français ? Il esquive, il ne répond pas. Et ensuite, c'est Benalla et c'est une jacquerie, les gilets jaunes, avec une pancarte, et je terminerai là-dessus, très révélatrice, qui dit, au fond, Macron nourrit ton peuple. Comme il y a quelques siècles, lors de la révolte des Vanupiers ou les Jacqueries, c'est-à-dire qu'il y a un message sur la justice fiscale, la justice sociale, mais derrière, c'est qui t'a fait roi ? Qui t'a élu ? Tu es le représentant de qui ? De nous, l'aristocratie de Bercy, des technocrates et de Bruxelles.
Alors votre conte de Noël, Stéphane Rosès, dont je vous remercie, est très intéressant parce que il balaye de manière très large plein de sujets qu'on va aborder ce soir avec vous trois. La création d'un personnage, Emmanuel Macron, la question aussi de la manière dont un récit politique est accepté, interprété par ceux à qui il est destiné. Et la question des gilets jaunes qui est très intéressante, notamment parce que je citais Christian Salmon dans le chapeau de cette émission, il n'est pas avec nous ce soir, mais cet écrivain a écrit dans Mediapart que les gilets jaunes avaient déréglé les discours politiques et médiatiques dominants parce que, précisément, il est indéfinissable, inexplicable, indéchiffrable. Alors, peut-être commencer par le personnage. On se demande dans cette émission si on peut se passer, la politique peut se passer d'histoire. Les hommes politiques peuvent-ils se passer d'avoir une histoire à raconter, une histoire personnelle? Mariette Darrigrand, ça commence par là.
Mais oui, mais personne ne peut se passer d'histoire personnelle. Nous sommes, chaque être humain est un conteur de sa propre vie. Si nous ne racontons pas quelque chose sur nous-mêmes, nous sommes déprimés, le vide existentiel arrive très vite. Donc, bien sûr, c'est très connu, l'identité narrative, le philosophe Paul Ricoeur que Emmanuel Macron a beaucoup cité pour d'autres raisons d'ailleurs, a beaucoup insisté là-dessus, mais tous les grands écrivains, il faut écrire sa vie, la rêver, comme disait Proust. Donc, les sociétés sont comme les individus de ce point de vue-là. Nous ne pouvons pas nous passer alors je reprends le conte de Stéphane Rosès parce que c'est un conte qui est déjà dans une narration particulière. C'est très intéressant le conte parce que c'est une épopée. Le conte est toujours un départ en voyage, un départ quelque chose. Pensons à Ulysse. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour le héros du conte? Il y a un désordre dans la cité, il est désigné pour rétablir l'ordre. Et donc, son but de voyage, ça doit être ça, et tout doit être en quelque sorte redistribué sur l'ensemble. Il va être héroïsé, c'est lui qui va gagner, mais c'est pour tout le monde.
Alors, le personnage est narrateur de sa propre vie, de sa propre histoire, dites-vous. Virginie Le Guel, les médias l'y aident aussi, et notamment à Paris Match. Est-ce que vous diriez que vous avez contribué à fabriquer l'histoire de notre président de la République, d'Emmanuel Macron? Comment?
En tout cas, j'ai en tête une première couverture que Match avait consacrée à Emmanuel Macron dès avril 2016, à Emmanuel Macron et à sa femme Brigitte. Couple tout à fait inédit, Brigitte Macron a 24 ans de plus que son mari, et couple qui était largement inconnu du grand public. Et Match, qui a commencé en avril 2016, a fait 5 couvertures jusqu'en avril 2017. C'est-à-dire jusqu'au moment où Emmanuel Macron est arrivé aux portes du pouvoir, 5 couvertures qui étaient destinées à expliquer l'histoire de ce couple, à le banaliser, à le rendre attachant, concret, tactile, pour que les gens le connaissent, et du coup, à fabriquer l'histoire d'Emmanuel Macron et de sa femme Brigitte.
Et vous considérez que c'est votre rôle de fabriquer cette histoire-là?
Je ne sais pas si c'est notre rôle, mais en tout cas, c'est ce que nous avons fait, et nous l'avons fait de façon, j'allais dire, comme un roman, avec un premier chapitre, un deuxième chapitre, un troisième chapitre, un quatrième chapitre, parce que chacune des 5 couvertures, si j'englobe la première et si je vais jusqu'à avril 2017, racontait des choses assez différentes, et donc c'était comme un livre, le livre de la vie d'Emmanuel et de Brigitte Macron, leur rencontre, la façon dont ils s'étaient épousés quelques années plus tard, le projet politique, parce que malgré tout quand même, il y avait un projet politique, mais je dois reconnaître que le projet politique est passé en seconde ligne. La ligne force, celle que tous les lecteurs devaient lire en premier, c'était son histoire personnelle.
C'est vrai qu'aujourd'hui, Stéphane Rosès, on s'intéresse davantage au parcours d'une femme ou d'un homme politique, à son expérience ou inexpérience, à sa stature internationale, comme on le dit pendant une campagne, à sa situation familiale ou conjugale. Et on s'intéresse davantage à tout ça qu'aux ressources définies par son parti, son programme, son financement, ses réseaux. Et Virginie Le Guel le disait elle-même. Est-ce que notre passion biographique pour un personnage politique et nouvelle à l'histoire, à l'échelle des médias et de l'histoire politique?
Je pense que c'est pas neuf, dans la mesure où, surtout dans un pays comme le nôtre, qui depuis la nuit des temps est inquiet sur qu'est-ce qui fait que le voisin d'à côté est un Français, l'imaginaire français s'est constitué au travers du politique, de la représentation de l'État et de ceux qui, soit par l'hérédité, le roi, soit par l'élection, vont symboliquement tenir ensemble les Français. Et donc cet appétit qu'indique Virginie Le Guel ou Mariette Darrigrand sur l'histoire individuelle et la cohérence entre l'histoire individuelle du monarque républicain, du souverain, et du moment, à un instant donné, du peuple, est très importante parce qu'au fond, on va essayer de comprendre à qui on a affaire et l'authenticité de la personne au travers de ce que l'on dit. Alors, il y a un élément de conjoncture. Comme les Français et les autres ne voient pas où nous allons, la dimension spirituelle d'incarnation a plus d'importance que la dimension temporelle de compétence. La force des Trump, des Poutine, des Erdogan, des Salvini et en son temps d'Emmanuel Macron, c'est que au fond, au travers de leur personne, ils relient ensemble des Français divisés, inquiets, dépressifs, d'où Emmanuel Macron, bizarrement, alors qu'ensuite on a eu Benalla, une horreur dans le cassage de la symbolique politique, bizarrement Emmanuel Macron non seulement l'avait repéré, mais il le disait, il le théorisait. Et ensuite, il a fait un tête-à-queue durant l'été, absolument incroyable.
D'où la complexité du personnage d'Emmanuel Macron. On dit souvent, Marie Darigrand, que quand une histoire est bonne, c'est que les personnages sont complexes. Quand un film est bon, les personnages sont complexes. Est-ce qu'un personnage politique, pour être bon, doit être complexe?
Alors, non, je pense que d'une certaine façon, il doit être très simple, très archétypal, mais simple au sens profond, fondamental, archétypal. C'est-à-dire qu'il doit incarner pas simplement un personnage, mais aussi, disons, un grand désir humain, une grande émotion humaine. Et je crois que ça a été le cas vraiment pour Emmanuel Macron, parce que, en gros, le pays était déjà dionysiaque, il était déjà en éruption, il était déjà noir, il était déjà négatif. Il y a eu d'autres crises, Gilets jaunes est très forte, mais il y en a eu d'autres avant-coureuses. Et la campagne était noire. Il y a eu l'affaire Fillon, etc. Voilà. Et je crois qu'il a gagné en partie, en grande partie, parce qu'il a été une sorte d'éros. Il a été du côté, non pas du thanatos, de la mort, des passions tristes, il a été du côté des passions positives, et il a redonné une forme d'optimisme, même à des gens qui n'étaient pas de son côté, si on peut dire, mais il a rendu possible quelque chose. Et à ce moment-là, les yeux bleus, idéal, le côté beau gosse, le côté jeune, étaient extrêmement positifs.
Et ça comptait vraiment?
Oui, mais ça a compté beaucoup. Alors, il y a eu le côté romance, certes, il y a eu tout ça, mais je crois que fondamentalement, pour moi, c'était Gérard Philippe dans le CID. Il y avait quelque chose comme ça de théâtral et de très enjoué qui avait disparu de la scène française. Et puis, ensuite, le problème, c'est que quand on ne tient pas ce niveau, le problème des archétypes, c'est que ça se retourne en son contraire. C'est un objet qui va très vite à son contraire. Il n'y a pas de nuance.
Et comment vous faites dans ces cas-là, Virginie Le Guay, quand vous avez contribué à fabriquer un personnage et à mettre en évidence les traits de caractère de ce personnage tel que Marie Darigrand vient de les citer, les énumérer, et que tout d'un coup, vous vous rendez compte aussi dans une rédaction, vous êtes chef du service politique de Paris Match, et bien que le personnage n'a pas tenu ses promesses. Et quel récit vous mettez en branle et comment vous évoluer dans ce récit-là?
Moi, je dirais que le récit que nous mettons en route, c'est aussi le récit de la déconvenue de ceux qui ont cru en l'histoire d'Emmanuel Macron, de ceux qui ont cru en sa promesse, de ceux qui se sont laissés séduire par, effectivement, sa jeunesse, son enthousiasme, sa promesse d'une République exemplaire, sa promesse de réformer le pays en profondeur, sa description lui-même comme étant nouveau, n'ayant jamais fait partie d'un vieux système vermoulu, qu'il ne cessait de décrire comme à bout de souffle. Les Français ont été à la fois étonnés et finalement très ébahis par ce tour de force qui a démarré avec une campagne fracassante et fracassée, et finalement un président de la République jeune qui faisait de l'effet, qui se promenait dans le monde et qui impressionnait beaucoup la scène internationale et les Français eux-mêmes, qui étaient presque surpris de cette performance qu'ils avaient réussi à faire sans presque même y penser. Moi, je ne suis même pas sûre qu'ils étaient si conscients de ce qui allait se passer. Ils ont pris le train en marche, et finalement de déconvenu en déconvenu, parce que rappelons-nous l'affaire Fillon qui a quand même laissé en rade toute une partie de l'électorat de droite. Tout le monde s'est finalement reporté sur Emmanuel Macron, ou tout le monde, enfin une partie des Français se sont reportés sur Emmanuel Macron, mais presque insensiblement, presque sans le vouloir. Et la déconvenue en revanche est arrivée assez vite et a été très forte, à la hauteur des promesses d'Emmanuel Macron et de l'illusion peut-être qu'il avait su créé au moment de son élection.
Ce qui veut dire, Stéphane Rosès, qui confirme bien qu'une bonne narration, une bonne histoire ne dispense pas ni d'une bonne argumentation, ni d'une action à la hauteur.
Oui, c'est-à-dire que la personnalité que le pays va chercher parmi d'autres. Et là, le cas est typique, puisque le type n'existait pas. Hein. Il n'existait pas, il n'avait pas de formation politique. C'est la rencontre entre ce que l'on prête à quelqu'un et ce qu'il met en avant, avec de l'intelligence, de la finesse, de la compréhension, et le sujet du pays. Le pays, depuis au moins un quart de siècle, on lui disait « faut choisir ». Soit survivre dans le monde tel qu'il est, soit renoncer à son identité. Vous demandez ça à un individu, il dit oui avec la tête et non avec les tripes. C'est ce que disait Mariette Darrigrand, c'est la dépression. Et là, on voit arriver un jeune homme moderne, il dit non, vous n'êtes pas vous les responsables. C'est le vieux système, hein, ce que vous disiez très justement. C'est le vieux système, je sais, j'en viens. Et on voit quelqu'un qui ne critique personne et qui dit... N'ayez pas peur, ayez confiance. Et il applique la philosophie de Ricoeur de l'émancipation individuelle au collectif de la France. Et il dit à la France recèle d'un haut potentiel, on va y arriver. Et là, c'est la promesse que, même si socialement on estime que ce qu'il fait est injuste, ça va aller, on va remettre sur les rails. Et il dit, il le repère, il dit, le premier mandat qu'on m'a confié, c'est de restaurer la souveraineté de la nation. Et quand Merkel l'envoie balader à Aix-la-Chapelle, là, au fond, il n'a plus de cap, et il reprend le propos de ses prédécesseurs qu'il critiquait, la politique du rabot, la politique comptable, la politique de Bercy, où les Français doivent se serrer entre eux pour trouver des sous.
Alors, est-ce qu'on peut encore écrire de bonnes histoires quand l'impression générale est que la plume est tenue par quelqu'un d'autre, disons le producteur, pour filer la métaphore, et que le narrateur n'est pas souverain, il est contraint par l'Europe, il est contraint par des impératifs financiers, parfois par une crise financière 2008 qui fait exploser en vol un récit, tout comme un attentat terroriste, Mariette Darrigrand.
Oui, je crois qu'il faut considérer qu'il y a trois catégories. De récits, si on veut. Il y a l'épopée, le conte, l'épopée, on part quelque part avec un but, etc. Il y a le mythe, l'imaginaire, c'est-à-dire on construit un personnage. Qu'est-ce qu'il y a dans les mythologies? Bah, c'est des personnages extraordinaires, ils se métamorphosent, ils ont des pouvoirs incroyables. Donc c'est le côté un peu enchanté. Hein. Il y a le grand voyage, l'enchantement. Et troisième catégorie, ça a été théorisé, hein, c'est le logos, le mythos et l'épos. La troisième catégorie, c'est quand même, il faut que le récit soit tenu justement par une voix d'autorité. Pas le conteur, mais une voix qui dit la vérité, qui dit le bien, qui dit le mal, qui dit le logo, si vous voulez, l'argumentation.
Et qui est-ce aujourd'hui alors?
Et voilà, c'est la question. En politique, il n'y a pas aujourd'hui de voix forte pour dire comment penser la chose. Emmanuel Macron a mis des bribes de ça. Avec Ricoeur, avec le progressisme, c'était le renouveau d'un isme, il n'y avait plus de isme dans la politique française. Il en a mis un petit peu. Bon, ensuite, il a travaillé. Quand on travaille, on pense moins d'une certaine façon. Mais je dois dire que là, et pour reprendre la métaphore du conte de Stéphane Rosès, dans un conte, le héros, il a besoin de, pour réussir, il a toujours des opposants, très durs, hein, on voit bien, et il a besoin d'adjuvants. Il a besoin de personnages qui l'aident dans sa quête. Une bonne fée, un vieux qui lui donne un conseil, que sais-je. Et là, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a pas beaucoup d'adjuvants. Il n'y a pas de grand intellectuel qui le suit. Hein. C'est incroyable le silence des intellectuels. Il n'y a pas de grands médias qui le suivent vraiment. Les médias sont plutôt, je trouve, contre lui pour faire descendre justement. Ils font de la sémiologie.
Les auditeurs ne seraient peut-être pas d'accord avec vous parce qu'on entend souvent des auditeurs dire que les médias sont acquis
faux.
Ça à Emmanuel Macron.
Ben, vous me donnez l'occasion de commenter cet petit élément de doxa parce que c'est un préjugé. Je ne vois pas aujourd'hui comment les médias soutiendraient Emmanuel Macron, même pendant la campagne. C'est pas vrai du tout. Il y a eu des formes d'approbation, si on veut,
mais
globalement, je crois qu'au contraire, le quatrième pouvoir a cherché, mais pas qu'avec Emmanuel Macron, avec tous les présidents de la République, à considérer que le rôle journalistique positif était de destituer le personnage. Et comme vous le disiez tout
Virginie
à l'heure à
Paris
Image, Virginie Le Guay l'expliquait très bien, comme il y a ce personnage créé par le média, immédiatement, l'autre média, en quelque sorte, pour être alternatif, pour dire nous, on ne fait pas du Paris Image, donc on va désinguer le personnage. Et ce mouvement est très négatif. Très, très négatif. À mon avis, tout le monde y perd, dans un sens comme dans l'autre.
Virginie Le Guay.
Je modulerais, si Marielle Darrigrand m'y autorise, un peu ce récit, parce que moi, il me semble me souvenir, alors peut-être pas dès le début de la campagne, mais assez vite, que plus le Fillon, disons, dégringolait dans les sondages, plus l'affaire Fillon prenait des proportions quasiment irréversibles et irrémédiables, plus d'autres regards se sont tournés vers Emmanuel Macron en disant, après tout, pourquoi pas lui ? Et alors, particulièrement quand on est arrivé au deuxième tour, où il s'est retrouvé face à Marine Le Pen, et je pense, pendant quasiment la petite première année de son mandat, je trouve que l'ensemble des médias classiques ont été assez favorables à Emmanuel Macron, ont beaucoup raconté son histoire, ses voyages, ses propositions, ce qu'il allait faire, ont beaucoup salué la réussite de ses premières mesures. Je pense à la loi de moralisation sur la vie publique, je pense à la réforme de la SNCF, je pense aux ordonnances du Code du travail. Finalement, le refrain qu'on entendait majoritairement, c'était « il a réussi, il a fait ce qu'il a dit ». Il a tenu son calendrier qui, c'est vrai, la première année a été assez bien respectée. Et je ne trouve pas, contrairement à ce que vous dites, que la presse d'entrée de jeu s'est montrée hostile à Emmanuel Macron. En revanche, c'est peut-être le précepte de la presse qui se retourne assez vite. Dès que l'affaire Benalla a pris les proportions qu'elle a pris, eh bien là, effectivement, il y a eu un retournement assez fort et assez violent. Et pour le coup, peut-être un peu trop brutal dans l'autre sens.
La politique peut-elle se passer d'histoire ? C'est le sujet dont nous débattons jusqu'à 19h. Stéphane Rosès, dans une histoire, il y a donc des auteurs, il y a des scénaristes, des communicants, les spécialistes de la communication politique, mais aussi les médias, on l'entend, et peut-être aussi des internautes, aujourd'hui alors des réseaux sociaux. Comment le discours politique, la narration politique doit s'adapter à cette urgence du temps médiatique et des réseaux ?
Je ne sais pas ce qu'en pensent nos amis spécialistes autour de la table. Je suis arrivé après 30 ans, au fond, à relativiser beaucoup la question des médias, des supports, pour au contraire remonter aux fondamentaux de ce qui fait un peuple et de ses représentations culturelles dans un environnement auquel chaque peuple doit s'adapter. Donc il y a des grandes permanences culturelles des peuples qui ensuite s'adaptent selon les périodes et les moments. En un mot, c'est vrai, dorénavant, il y a les réseaux sociaux. C'est vrai, dorénavant, toute l'économie médiatique est transformée par le fait que les thèmes qui vont être traités seront les thèmes qui émergeront des réseaux sociaux, alors qu'avant les journalistes disaient ce qui était important dans le réel et ce qui pesait dans le réel, là maintenant les réseaux sociaux disent ce qui émotionnellement fait du buzz, fait de l'audience et fait l'économie numérique, médiatique et émotive. Mais une fois qu'on a dit ça, le sujet essentiel, me semble-t-il, c'est la cohérence entre ce qui fait le rapport au réel d'un peuple, son imaginaire, ses institutions politiques et les politiques qui sont menées. C'est-à-dire que la chute d'Emmanuel Macron vient de ce que, au fond, à ce point, durant cet été, la promesse qui était la sienne, il a fait un tête-à-queue. Il a été pris d'une hubris où il a oublié qu'il n'était qu'un acteur d'une pièce écrite par le peuple pour devenir un auteur. Il s'est contenté de constater qu'il n'avait pas d'adversaire et il s'est pris de façon désinvolte, comme Chirac en 95, élu sur la fracture sociale, qui revient 6 mois après sur ce qui avait fait son élection et qui se tape le mouvement de 95, très soutenu par l'opinion. Eh bien, quand un souverain à ce point s'éloigne de ce qui a fait son contrat avec le pays, alors, de façon très violente, le pays revient en jacquerie.
Alors, les hommes politiques, dites-vous, Emmanuel Macron est passé d'acteur à auteur, mais les hommes politiques, Mariette Darrigrand, sont toujours des auteurs. Un bon homme politique est un bon narrateur.
C'est quelqu'un qui écrit sa vie. Parce qu'on disait l'identité narrative, et bon, bah bien sûr, quand vous écrivez à 3 ou 4 ans, je vais être président de la République, vous écrivez chapitre après chapitre. Je crois que ça les caractérise vraiment très fortement. De ce point de vue-là, Il a raconté son personnage, Emmanuel Macron, il s'est même nommé. Il a dit Jupiter. C'est quand même intéressant.
Il s'est auto... il a trouvé son propre personnage.
Et il s'est autoproclamé jupitérien. C'était intéressant parce que Jupiter, justement, ne fait pas partie de l'histoire de France. Ça fait partie de notre origine très, très ancienne. Et je crois qu'il a oublié, deux choses. Parce que dans le cadre gréco-romain, Jupiter, il avait deux autres... Il fonctionnait avec deux autres personnages. Il fonctionnait avec Mars. Hein, il y avait toujours trois. Donc Jupiter, Mars. Mais Mars, il n'est pas martial, Emmanuel Macron. Ce qui est martial, c'est Poutine, c'est Trump, c'est les empereurs. Le monde est martial. Hein. Jupiter, c'est pour partant de paix, d'une certaine façon. Et puis, troisième personnage, plus intéressant, je trouve, pour lui, il devrait penser à Janus. Janus était aussi le troisième personnage. Et Janus, il est très intéressant parce qu'il est en même temps.
Il a deux faces, il
Exactement.
Est en même temps.
Il est typiquement macronien. Et en plus, c'est le dieu du passage, c'est le dieu de la transformation. Et on nous fait entrer, c'est le dieu des portes, il nous fait entrer dans un nouveau monde. Donc c'est une figure tout à fait intéressante. Il faudrait abandonner Jupiter qui n'a rien à voir, si j'ose dire, avec la choucroute. On n'en a pas en France. Mais Janus, c'est une figure archétypale très intéressante pour lui.
Qui peut intéresser les lecteurs de Paris Match, Virginie Leguet ?
Qui peut intéresser tout le monde. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Stéphane Roset sur le personnage dans lequel Emmanuel Macron s'était lui-même enfermé, finalement en ne travaillant pas, en ne se mettant pas au service de son propre quinquennat, en considérant que parce qu'il avait été élu, ça se passerait bien, et parce que sa trajectoire avait été d'une certaine façon sidérante et inouïe, parce qu'il avait été seulement ministre très peu de temps et qu'il n'avait eu aucun mandat électif, tout allait bien se passer. Dans le fond, Emmanuel Macron est un président de la République... Partant léger, partant facile, il peut effectivement offrir quelques magnifiques images au début de son quinquennat. Je sais pas, les Français se souviendront du 14 juillet.
Et l'image est importante dans la construction d'une histoire.
Oui. Mais quand ces images se heurtent à la réalité, et la réalité est venue assez vite, et que ce même président de la République montre de toute évidence que cette réalité-là, il ne la comprend pas, il ne la domine pas, il ne la traite pas. Par exemple, l'affaire Benalla, c'est une affaire totalement idiote. Il aurait pu très bien tout de suite... Au vu de la vidéo, parce que l'Élysée a vu cette vidéo où on voyait Alexandre Benalla s'en prendre à un manifestant place de la Contrescarpe. La vidéo, c'est un élément viral qui peut circuler extrêmement facilement. À la seconde où il a vu cette vidéo, où il savait que cette vidéo existait, il aurait dû dire « Stop, c'est fini, Alexandre Benalla ne peut plus travailler à l'Élysée. L'Élysée, c'est le lieu sacré du pouvoir, on ne peut pas garder Alexandre Benalla chez nous. » Au lieu de ça, il n'a pas soit bien défini son rôle, soit bien défini la faute d'Alexandre Benalla, il n'a pas su couper le cordon, et c'est devenu ce que c'est devenu. Et de mon point de vue, tout son quinquennat a basculé à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il a perdu la maîtrise de son histoire et du quinquennat et de sa relation avec les Français.
Et ce qui veut dire, en l'occurrence Stéphane Roset, que le narrateur n'a pas suivi le temps des réseaux sociaux, de l'immédiateté de ces vidéos qui circulaient, et que là, le discours politique ou la narration politique n'a pas suivi ce tempo-là.
C'est peut-être pas tant une question de tempo que de contenu. Là où vous avez raison, ensemble, hein, Virginie, Mariette et Julie. C'est-à-dire que les réseaux sociaux donnent tout à voir sur le moment, tout à voir. On ne peut plus rien cacher. Et donc, quand il y a un hiatus entre le Bonaparte qui s'était fait élire sans écran entre lui et les Français, et qu'on voit une sorte de, on ne sait pas qui est Benalla, mais pour les Français c'est tout à fait troublant, que le Bonaparte semble faire prévaloir ce personnage dont on se demande pourquoi il a tellement d'importance entre lui et les Français, c'est un symptôme de quelque chose qui seront après que... Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est que nous sommes dans une période dure. Il n'y a pas de « en même temps » sur 5% des problèmes. Sauf que les 95% dépendent de tout le reste. Quand Angela Merkel dit « je ne bouge pas les disciplines » et qu'il ne comprend pas que ça correspond à l'imaginaire allemand, que la discipline militaire économique soit une finalité, alors que dans un pays comme la France, c'est un moyen au service d'une vision, là, il fait le petit garçon qui demande à la nation de faire en sorte que la discipline allemande soit une finalité, alors que les Allemands sont pas les Français. On ne peut pas être à la fois en même temps français et allemand.
Alors ça veut dire aussi, si je reprends le fil de vos pensées, j'espère ne pas distordre ce que vous dites, mais pour reprendre le champ lexical aussi de la narration que l'on déroule depuis le début de cette émission, ça veut dire aussi qu'un élu peut tenir son pouvoir de l'imaginaire, comme vous dites, ou de l'imagination de ses interlocuteurs, donc de son public, ou de la façon dont ils entendent l'histoire qu'il leur raconte, Mariette d'Arago.
Ah ben absolument, il n'y a pas d'histoire sans quelqu'un pour l'entendre. Donc ça se fait au moins à deux. Il n'y a pas, voilà. Donc, l'émetteur est toujours dépendant du récepteur, hein, et ça, c'est sûr. Surtout dans les mythes, quand on doit se raconter ensemble, c'est ça finalement la politique quand ça marche. C'est qu'il y a une espèce de concession. Tout le monde est d'accord pour croire à quelque chose ensemble. Quand le Parti communiste était très fort, tout le monde pensait qu'un jour la société sans classe, etc., ça reprenait le catholicisme d'antan, ça reprenait des vieux mythes messianiques. Donc à ce moment-là, tout va bien en quelque sorte, parce qu'on a une structure de conte originelle, très ancien, invariante, qui se réactualise au fil de l'actualité. Bon, ça c'est aujourd'hui, nous n'avons plus, en ce moment, ça n'est plus cela, mais peut-être, ce que dit Stéphane Rosès m'y fait penser, peut-être que c'est parce que justement nous sommes sortis du cadre national quand même. Donc d'où l'intérêt, je crois, de retrouver des histoires européennes. Il y a des mythes qui font à la fois qui mélangent, comme on dit, la matière de Bretagne, la matière alémanique, la matière latine. C'est là-dessus qu'il faudrait peut-être que les politiques se penchent.
Et les interlocuteurs, le public, a son propre récit. Comment on fabrique un récit collectif? Et là, je voudrais en revenir quelques instants sur le mouvement des Gilets jaunes. Qui a la main aujourd'hui sur le récit collectif d'un mouvement qui n'a pas de porte-parole? Comment ce mouvement a déstabilisé la narration politique qui était en cours jusque-là?
Et justement, parce que les Gilets jaunes, c'est une narration du peuple français qui date de plusieurs siècles. C'est-à-dire, il n'y a personne qui l'organise, c'est le subconscient politique
mais
du pays.
C'est moi, un mouvement du futur, c'est pas un mouvement du passé, ce mouvement.
Oui, mais les jacqueries, c'est le futur.
Vous parlez des jacqueries.
Oui, les jacqueries, c'est le passé, en ce que c'est des questions fiscales au départ qui, en fait, interpellent le souverain en demandant au souverain d'être à la hauteur de ses responsabilités et de son autorité. Quitte à faire roi, et les demandes de référendum sont des demandes qui visent à rétablir un lien comme en 89, le peuple de Paris, et plutôt les Parisiennes, vont chercher Louis XVI pour le ramener à Paris contre l'aristocratie. Contre l'aristocratie. Donc, c'est là où ce mouvement des Gilets jaunes est fantastique, c'est que apparemment, personne ne l'a structuré, mais ce qu'il a structuré, c'est l'imaginaire français. Et vous avez raison, Napoléon disait « Je ne tiens mon pouvoir que l'imagination des Français. Quand j'en serai privé, je ne serai rien. » Donc pour l'instant, Emmanuel Macron tient parce que le pays a peur du vide si il devait disparaître politiquement. Mais comme les problèmes de fond, qui est le rapport à l'extérieur. Et c'est peut-être mon seul petit point de hiatus avec Mariette d'Arrigrand. Ce que nous montre aujourd'hui le monde, c'est, comme disait Emmanuel Macron, les imaginaires des peuples régressent à leur forme primitive. Et la forme primitive des peuples, c'est la nation, c'est la souveraineté. Car avant même la prospérité, le problème premier des... Vous disiez, Mariette, à juste titre, on va mourir. Et donc le sujet premier des peuples-là, des ethnies, des empires, c'est la maîtrise de son destin. Et c'est ça qui malheureusement fait que les nationalistes et populistes divers ont pour leur le monopole de la souveraineté. Et c'est pour ça que selon moi, les gouvernances et politiques européennes nous amènent à la catastrophe, parce que ça ne laisse pas les Allemands être des Allemands, les Français être des Français, les Anglais des Anglais, les Italiens des Italiens.
Virginie Le Guay, en quelques mots, comment vous avez, en tant que média, contribué à construire un récit collectif ou pas autour de ce mouvement des Gilets jaunes?
Je pense qu'il n'y a pas des gilets jaunes. Il y a un gilet jaune qui est dans le sud de la France, un gilet jaune qui est dans le nord de la France, et que ce mouvement-là s'est construit en existant. C'est-à-dire que en se retrouvant sur les ronds-points, ceux qui venaient manifester, qui avaient enfilé leur gilet jaune, se sont parlé, se sont raconté leurs histoires individuelles, se sont aperçus que ces histoires se ressemblaient, et le mouvement est devenu un mouvement. Mais au départ, c'était une suite de colère ou de frustration ou de déception. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce mouvement, c'est la relation extrêmement directe que les Français ont eue, la relation de rage avec leur président de la République, à qui ils ont dit « tu voulais qu'on vienne te chercher, on est là, on est venu, on a traversé la rue, on n'a pas trouvé de travail ». Autrement dit, ce peuple-là avait entendu toutes les fameuses petites phrases que nous, journalistes, c'est vrai, nous avons beaucoup commentées, mais les avait très bien entendues, les avait assez mal perçues et était venu réclamer des comptes. Bien sûr des comptes politiques, mais des comptes aussi sur la façon dont ils estimaient avoir été maltraités par ce jeune président de 40 ans, enfin il a 41 ans maintenant, mais à l'époque il en avait encore 40, ce jeune président de 40 ans qui se permettait d'être un peu méprisant, arrogant, on a tout utilisé comme vocabulaire en ce qui concerne sa façon de parler des Français, mais c'est vrai que là c'était des comptes à la personne qu'il était.
Mariette Darrey-Grand, la crise financière de 2008 a porté un coup fatal au grand récit néolibéral, écrit Christian Salmon dans Mediapart, récit sur lequel reposaient tous les discours des gouvernants. C'est le monopole du récit dominant que dénoncent les Gilets jaunes, non pour lui opposer un autre discours, mais pour ruiner la compétence narrative du pouvoir en place. Mariette Darrey-Grand, si la souveraineté de l'État est perçue comme fragilisée, comment un récit produit par le pouvoir peut apparaître aujourd'hui comme crédible? Et vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse?
Il n'est pas là pour
en débattre, oui. Mais je voulais au moins vous la soumettre.
Oui,
moi, je la trouve très intéressante.
Oui, mais il faut bien voir une chose, c'est qu'il n'y a pas que le récit, que le contenu du récit. Ce qui compte avant tout en matière de langage, de situation de langage, c'est le type d'énonciation, c'est-à-dire le rôle que vous donnez à l'autre quand vous parlez. Peu importe le contenu de ce que vous allez dire, si vous ratez l'énonciation, ça va pas. Et or, Macron a lu Ricoeur, et il sait très bien que la reconnaissance est un préalable de tout. Et c'est ça qui s'est cassé, si vous voulez. Et les Gilets jaunes, une grande partie du discours tenu par les Gilets jaunes est une demande d'énonciation différente, mais très narcissique. Aussi narcissique que celle d'un président de la République qui se nomme Jupiter. C'est-à-dire qu'il demande aussi, moi je, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être reconnu.
Mais j'ai surtout besoin de vivre décemment.
Oui, mais la dignité, la question de la demande de dignité à égalité dans une démocratie, quelqu'un qui gagne 800 euros par mois et quelqu'un qui gagne, je sais pas, ou qui est président de la République, ont égalité de dignité. Et donc c'est cela, à mon avis, avant le grand récit épique, c'est cela qui doit être rétabli.
Stéphane Rosès, l'avenir d'une nation, d'un pays, dépend de la capacité de ses citoyens à choisir la bonne histoire. C'est un professeur de l'Université de Columbia qui le dit à propos des élections américaines. C'est vrai en France aussi.
C'est les peuples qui portent leur histoire. Et le mouvement des Gilets jaunes, je passe les violences du mouvement dans son reflux. Mais surtout,
qui sont une manière de raconter le mouvement d'ailleurs.
Qui est une manière de se faire entendre et d'être visible dans les territoires des lieux de pouvoir et des élites. D'où l'ambivalence des Français et des Gilets jaunes à l'égard de la violence pour se faire entendre. Mais au fond, ce qui m'intéresse comme ancien sondeur, c'est 70% des Français soutiennent encore ce mouvement. Alors que sous la réforme de la SNCF, on m'avait demandé un papier là-dessus, les Français ne soutenaient pas les cheminots, alors même qu'ils pensaient déjà à l'époque que la politique menée n'était pas juste socialement. Donc ce qui se joue avec ces gilets jaunes, c'est une demande d'autorité responsable et que le souverain soit au service de la nation. C'est mon désaccord avec M. Salmon. Et si malheureusement il n'y a pas de réponse démocratique à ce mouvement, ce sera un régime autoritaire. Et vous verrez là qu'on demande un récit. Vous verrez ce qu'est le peuple français qui demande effectivement de l'ordre.
Qu'est-ce qui va rester de ce récit politique? Est-ce que comme les mémoires de Jules César, qui aujourd'hui sont un summum de storytelling, puisqu'on connaît quasiment plus cette histoire-là que par le biais des écrits de Jules César, d'un empereur, est-ce que de la même façon on ne lira dans quelques années l'histoire des Gilets jaunes que par le biais de ce qu'on aura dit le président de la République?
on retiendra par, au fond, les points en commun qui commencent dès la guerre des Gaules, quand il n'y a rien à retirer à l'histoire magnifiée de César sur les tribus gauloises qui ne s'assemblent que par une vision, une adversité et une perspective commune. Et c'est l'histoire depuis des siècles de notre pays.
Merci beaucoup à vous trois d'être venus discuter de ce sujet ce soir. Stéphane Rosès, votre article « Emmanuel Macron, Aladdin de l'imaginaire français » apparu dans Le Débat l'année dernière. Virginie Leguet, chef adjointe du service politique à Paris Match, vous avez publié un livre « Bayrou, un autre chemin » aux éditions
Bartilla.
Et merci à vous, Mariette Darigrand. Comment les médias nous parlent mal contre le pessimisme médiatique et ses effets politiques, c'est toujours disponible chez Jean-François Bourin, éditeur. Merci beaucoup à vous trois. Merci à l'équipe du Grain à Moudre. Antoine Tricot, Antoine Dulster, Fanny Richet, Virginie Leduo et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Émilie Valla, avec la prise de son ce soir Alex Dang. Demain, le modèle français de la recherche est-il périmé? Dans un instant sur France Culture, ce sera le rendez-vous de la dispute avec Arnaud Laporte. Mais tout de suite à 19h, vous écoutez France Culture et c'est le rappel des titres avec Aurélie Kiefer.